les armes qu'ils ont utilisées, pour l'essentiel, le fournisseur, je dirais, numéro un d'Israël, c'est les États-Unis, hein, bien évidemment. Toute guerre, malheureusement, sert aussi de champ d'expérimentation de nouvelles armes. Et Israël a dit qu'effectivement, il n'utilisait que des armes qui n'étaient pas interdites au niveau international. Mais souvent, elles ne sont pas interdites parce qu'elles sont nouvelles. Avant qu'elles puissent être interdites, effectivement, il faut qu'elles aient été expérimentées, qu'on en mesure les dégâts. Et c'est seulement à ce moment-là que la communauté internationale édite des règles ou modifie les règles existantes pour interdire les armes dites trop inhumaines ou atteignant trop les populations civiles au détriment de l'efficacité, etc.
Et alors de l'autre côté, les armes du Hamas, d'où proviennent-elles ? On parle souvent de l'Iran, de la Syrie.
Pour le moment, les sources qui approvisionnent le Hamas ont pu être en partie identifiées, même si on n'a pas encore de preuves de manière formelle ou d'éléments plus précis en termes de preuves, hormis qu'à la fin des conflits, les observateurs sur le terrain peuvent voir les types d'armes ou de restes d'armes qui sont, et à partir de là, remonter les filières, même si c'est un peu tard. Les armes qui aboutissent effectivement au Hamas proviennent de manière clandestine. Ce ne sont pas des armes vendues officiellement, puisque le Hamas n'est pas un État reconnu, et que d'un point de vue théorique, je dis bien au niveau de la réglementation internationale, le peu de réglementation internationale existant sur le commerce des armes, les armes doivent être vendues entre États, et les États ne doivent pas vendre à des entités non étatiques. Mais bon, après, chaque État est en partie souverain quand même en la matière et agit en fonction de ses propres critères.
Alors, dans quelle mesure ce commerce des armes, son poids économique, aura pu jouer un rôle potentiel dans la lenteur de la résolution du conflit et de la mobilisation de la communauté internationale ?
Je pense que ce qui est le plus déterminé, je crois, par rapport à la lenteur dans ce conflit, à mon sens, c'est sans doute la question de l'arme nucléaire que possède Israël et qui est un petit peu tabou au niveau des discussions, mais qui est vraiment très présente au cœur de ce débat-là. Là où le commerce des armes a pu jouer par rapport au dernier conflit, c'est plus à l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, un des points de départ de l'action d'Israël, c'est d'empêcher que le Hamas puisse s'approvisionner en armes. Mais là, on n'est pas dans le commerce légal, on est plutôt par rapport au commerce illégal. Et là-dessus, effectivement, je pense qu'un certain nombre d'autres États, parmi les puissances importantes, étaient d'accord implicitement pour tarir cette source d'approvisionnement vis-à-vis du Hamas, dont on sait qu'une des sources provient de la Syrie et de l'Iran pour l'essentiel, parce que, au niveau de la communauté internationale, on n'a pas envie que le Hamas puisse posséder un armement qui était de plus en plus puissant, et notamment des missiles qui pourraient atteindre la ville de Dimona, là où se trouve effectivement la centrale nucléaire qui a permis à Israël de se procurer la bombe. Donc je crois que c'est plus dans ce sens-là que le commerce des armes a joué, que vraiment que le commerce des armes qu'ont les pays occidentaux avec l'Israël, ou qu'Israël a avec les pays occidentaux, puisqu'Israël, progressivement au fil des années, est devenu un exportateur relativement important, hein, puisqu'il arriverait en sixième position, juste derrière la France, avec à peu près 6 à 7% du commerce mondial des armes, la France étant à 8%. Hein. Et donc je crois que c'est pas ce commerce-là qui est freiné, mais c'est plutôt les trafics d'armes auquel ce conflit donne lieu.